C'est pas dans mon quotidien. J'ai pas de parents malades, j'ai pas d'amis malades, j'ai pas de connaissances malades. Pour moi, c'est quelque chose d'aussi lointain que la famine en Afrique. Donc, je sais que ça existe, mais au final, en dehors de ces quelques moments où on y pense intelligemment avec réflexion, je m'en fous.
Le sang des autres, un documentaire de Charlie Van de Kerckhove.
Ben, une des questions qui est apparue, enfin qui vient en tête la plupart du temps, c'est voilà, je mourrai bientôt, quoi, en fin de compte. C'est comment pouvoir gérer cette pathologie qui a pas mal de tabous, qui a pas mal de fausses croyances, surtout dans ces années-là. Et de se dire, bah, qu'est-ce que je vais devenir dans 2 ans ou dans 3 ans. Parce que l'avancée thérapeutique à cette époque-là n'était pas totalement non plus très, très, très poussée, même s'il y avait beaucoup de recherches. Mais il y avait hélas aussi beaucoup de décès. Et moi, dans mon entourage personnel, j'avais beaucoup d'amis, copains, copines, qui décédaient du sida. Alors, moi, j'ai appris ma séropositivité donc en 1992, suite à l'apparition de différentes pathologies entre guillemets bénignes, c'est-à-dire des bronchites, allergies et autres. Et avec mon médecin, donc, on s'est posé la question de savoir quelles étaient les sources, enfin les origines de tout cela. Et donc, après avoir épuisé l'ensemble des traitements antibiotiques et autres, donc on s'est orienté vers un dépistage, en fin de compte, VIH. Il m'a proposé un dépistage VIH et hépatite. Et donc, c'est avéré que ce résultat était positif. Mais j'ai eu les résultats, en fin de compte, pendant ma journée de travail. C'est-à-dire que j'avais pris un quart d'heure pour aller chercher les résultats chez mon médecin qui était à côté. Et en fin de compte, ensuite, il a fallu que je continue à travailler. Donc, c'était le choc de deux mondes. D'un seul coup, je partais de quelque chose d'hyper brutal, d'hyper violent. Et il a fallu que je me replonge dans la vie quotidienne, la vie de tout le monde, quoi, de monsieur tout le monde. Et ça a été quelque chose de très, très surréaliste, en fin de compte. Et c'est en fin de compte le soir où je me suis rendu compte, quand je suis rentré à la maison, donc encore j'habitais chez mes parents à cette époque-là, où je me suis rendu compte de la violence, de la pathologie et de ce que ça pouvait entraîner.
J'en connais, ouais, sous le feu de l'action, ouais, bon, on n'a pas mis de préservatif, ouais, mais je le connais. Même moi, ça m'est déjà arrivé, quoi.
Bah, j'étais jeune. J'étais jeune quand j'ai appris que j'étais séropositif. J'étais en période en phase de séroconversion. Donc je passais de séronégatif à séropositif. En plus, au moment de mon anniversaire. Donc ça a été. Comme je dis, c'est mon plus mauvais cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Et je l'ai appris par mon médecin au téléphone. Ça a été dur. J'ai mis plusieurs semaines vraiment mal, pas bien. Donc j'étais encore étudiant à l'époque, en plus loin de la famille, puisque j'étudiais à Grenoble et je suis originaire de la Bourgogne. Donc j'avais personne à qui en parler, sauf le numéro vert de site d'infoservice que j'ai appelé plusieurs fois. Et voilà, donc quand j'ai annoncé à ma famille que j'étais séropositif, je l'ai dit à ma cousine. Parce que j'ai une très grande amitié avec ma cousine depuis petit. Donc, ça a été la première à savoir que déjà que j'étais gay, et puis donc là pour séropositif. Puis on s'écrivait, tout ça. Et ben, sa mère, je pense, c'est sa mère qui a lu les courriers ou elle qu'on a parlé à sa mère, ça je sais pas. Mais du coup, sa mère a été au courant. Et à cette époque-là, ma tante avait un cancer. Et on était aux fiançailles de cette cousine, et on était à l'extérieur sur un banc, et ma tante, elle me dit, ben, bienvenue au club. Alors, je lui dis, j'ai peur de comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Et elle dit, avec par rapport à ta maladie. Donc là, j'ai découvert qu'une partie de ma famille était au courant, alors que je l'avais dit qu'à ma cousine. Donc j'en ai jamais. Voulu à ma cousine, parce qu'elle était comme moi, jeune, c'est normal qu'elle ait eu besoin d'en parler. Et je lui ai jamais demandé si elle l'avait dit à sa mère, ou si du coup ce serait sa mère qui avait lu nos correspondances. Et du coup, ben là, après, tous les frères et sœurs de ma mère le savaient, sauf elle, et je lui ai dit un jour ça va lui arriver aux oreilles. Et ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, ben, il faudrait que tu lui dises, tout ça. Et c'était très dur. Là, c'était beaucoup plus dur de dire je suis séropositif que de dire je suis homosexuel. Déjà, elle avait pas mal souffert quand je lui ai appris que j'étais homosexuel, parce que forcément, il y a tout un rêve qui s'effondre de devenir grand-mère, voilà, les projets qu'il faut avant même qu'on naisse, donc voilà. Et je lui ai dit, alors je sais plus exactement comment ça s'est passé, si on était seul, s'il y avait d'autres personnes, je me rappelle pas, mais je me rappelle simplement que ça avait été dur. C'était dur, dur pour elle. Elle a beaucoup pleuré, a mis du temps. Donc heureusement, ma sœur habitait pas loin. Donc et justement, ce que j'avais peur qui arrive, ben, c'est arrivé. Ce qui fait que l'été, elle l'avait su au printemps. L'été, elle nous a invités avec ma sœur en vacances. On est parti une semaine aux Baléares, tous les trois. Voilà, en gros, comme si j'allais mourir bientôt. Et il fallait profiter donc et pendant ces vacances donc le caméscope et l'appareil photo a fonctionné à plein régime et voilà.
Moi, j'ai toujours peur d'attraper le sida. Pourtant, j'ai pas beaucoup de relations sexuelles. Enfin, avec des partenaires vraiment différents. Mais en fait, c'est qu'on pense tellement que ça concerne les autres. C'est vrai, même aujourd'hui dans notre société, on pense que on parle beaucoup du sida, mais il faut pas, enfin, je veux dire, il faut pas être hypocrite. Les gens s'imaginent que les gens qui ont le sida, c'est des marginaux, c'est des homosexuels, c'est des toxicos qui se piquent. Alors que il y a des gens comme toi et moi qui attrapent le sida et je pense quand même que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens, même surtout même de notre génération, alors qu'on est une génération qui a vécu avec cette maladie. Enfin, voilà, nos premières relations sexuelles, on a toujours su qu'il y avait le sida, on a toujours su qu'il fallait se protéger. Et pourtant, je trouve quand même que les jeunes ont un comportement assez irresponsable par rapport à cette maladie.
Au niveau de la situation familiale, donc ça a été, je dirais, très facile et très difficile parce qu'il y a eu différentes étapes. Pour ma maman, par exemple, je lui ai appris le soir même, parce que bon, quand elle a vu dans l'état où je suis arrivé, elle se demandait ce qui se passait. Donc elle a une réaction très très importante et très forte qui, d'ailleurs, qui me porte encore maintenant. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu resteras mon fils. Mon père, non, j'ai pas pu lui annoncer parce qu'il n'avait pas du tout une ouverture d'esprit par rapport à ça. Pour mes frères et sœurs, donc la situation actuelle, j'ai juste en contact, je suis juste en contact avec ma sœur et un frère. Donc tous les autres, la plupart du temps quand on est au téléphone ou choses comme ça dure 30 secondes et puis basta. Les amis, comme on peut les entendre, les amis personnels, au lycée et autres, j'en ai plus du tout. Donc tous ces amis-là, petit peu par petit peu, se sont écartés, ont donné moins de nouvelles et ont arrêté le contact. Alors moi je les avais mis au courant par honnêteté, tout simplement pour aussi trouver un soutien. Parce que quelquefois, c'est quand on rentre le soir et qu'on est un peu, on est un peu seul, enfin qu'on est seul avec ses maux, en fin de compte, parce que bon, la maladie fait quand même, on a des douleurs aussi, des choses comme ça, donc qui sont internes. La prise des traitements, donc quelquefois, vous savez, quand le téléphone ne sonne plus, quand vous ne recevez plus de cartes postales ou de choses comme ça, voilà, vous vous posez des questions, mais vous dites qu'à un moment donné, bah c'est le temps qui fait son chemin, et c'est aussi quelquefois la méconnaissance de la pathologie qui entraîne justement cette rupture de communication.
Non, ça m'est jamais arrivé d'avoir peur de l'avoir attrapé parce que j'ai, pour l'instant, j'ai toujours fait attention et parce que je me voyais grâce à toutes ces campagnes et tout ça. Enfin, même mes parents m'ont toujours, enfin, ma mère me donnait régulièrement des capotes, donc. J'ai toujours été sensibilisée là-dessus et fais attention.
Après l'annonce de la pathologie, il faut aussi pouvoir assimiler le fait qu'on a une pathologie mortelle, qu'il existe très peu de traitements et qu'on sait que l'avenir est très incertain. Tout ça, il faut pouvoir l'accepter et à un moment donné, il faut aussi pouvoir le dire. Mais ça permet aussi de se libérer d'un poids quelque part, en espérant trouver un support, un support, une aide qui quelquefois n'existe pas. Et ça, c'est le plus difficile. Une des seules questions qu'on me posait, c'était comment? Comment et pourquoi? Voilà. Donc c'est très réducteur, mais c'était voilà. Donc voilà, c'était à peu près mais pas de questions sur voilà comment tu vas faire, comment est-ce que tu as besoin de quelque chose, ou des choses comme ça. Non, c'était plus pourquoi, comment, et puis voilà quoi. Donc, par contre, j'ai eu des comportements assez surprenants de certains de mes amis, enfin si on peut appeler oui, ces amis-là, c'est que une fois ça m'était arrivé de voilà d'avoir oublié mon paquet de cigarettes, je crois, bon quelque chose comme ça. Et donc je suis retourné, voilà, aller rechercher, mais 10 minutes après être parti. Et une chose que j'ai vue qui a été assez violente pour moi. C'est le fait que, outre ça empestait l'eau de Javel et que la plupart des couverts et des verres étaient dans la poubelle. Ça, c'est quelque chose qui m'avait un peu, voilà, qui m'a violemment heurté. Et bon, voilà, après, leur en vouloir, je sais pas, parce que c'est sur le coup, si vous voulez, il y a un moment où on se dit, mais on est complètement éberlué par rapport à la connaissance de la pathologie, parce que là, on est dans les années. À peu près dans les années 2000, donc quand même, si les informations circulaient, les choses commençaient à être beaucoup plus visibles. C'est dans ces années-là où j'ai accepté de témoigner à visage découvert aussi. Donc c'est pour ça aussi que j'avais mis en place, quelques années plus tôt, je pense, voilà, le fait de leur en parler pour aussi peut-être trouver un soutien de leur côté.
C'est toujours pareil, il y a une vraie notion de paranoïa derrière. Alors, je crois savoir qu'en théorie, on ne peut pas attraper la maladie par un simple baiser. Maintenant, embrasser quelqu'un en sachant pertinemment qu'elle est malade, il y aurait toujours cet effet, cette peur derrière, cette peur de, on ne sait pas, une plaie, une coupure, n'importe quoi, et du coup, un échange de sang et du coup, enfin, le baiser perd tout intérêt s'il est nourri par la peur.
Et là, j'ai joué avec un ami, donc qui est divorcé, qui a un enfant, qui est séropositif. Donc, on parle, je m'intéresse de sa famille, tout ça, mais je m'interdis, je vais jamais demander, mais pourquoi, comment ça se passe, toi? Est-ce que ton fils est au courant, ton ex-femme? Est-ce que, si oui, comment ça se passe par rapport à ton fils? Comment il réagit? Et je sais pas, je me vois pas lui poser la question. Je me l'interdis d'une certaine manière. Je pense que ça touche à la famille, donc je vais m'inquiéter, je vais demander des nouvelles sur la santé de son fils, des choses comme ça, mais pas sur les relations père-fils par rapport à la maladie du père. C'est privé, c'est intime, et pourtant c'est un ami, un bon ami, mais voilà, je m'auto-censure sur ce sujet, oui.
Je pense au film Philadelphie où là on voit quand la personne est malade du sida. Enfin, il allait très creuser, mais en même temps, je pourrais pas faire la différence entre quelqu'un qui a le cancer et quelqu'un qui a le sida. Enfin non, ça doit pas être écrit sur leur tête. On voit qu'ils sont malades, je pense, parce qu'ils doivent être amincis et enfin ça doit se voir qu'ils sont pas très en forme. Mais non, je pense que c'est pas écrit sur leur tête qu'ils ont le sida.
Le premier traitement, donc, c'était la ZT en monothérapie, la bithérapie donc en essai thérapeutique, ensuite donc la maladie qui s'est déclarée, et puis les trithérapies qui étaient présentes, qui n'ont pas fonctionné sur moi. Donc il a fallu faire ce qu'on appelle un peu, entre guillemets, une cuisine thérapeutique, c'est-à-dire d'associer en fin de compte 4 molécules pour pouvoir faire en sorte que mon virus soit le moins virulent possible. Cette quadrithérapie, je l'ai encore maintenant. Grâce aux avancées de la science, les nombres de comprimés sont beaucoup moindres, beaucoup moins gros, ce qui sont quand même beaucoup plus agréables, parce que quelquefois quand on a des médicaments qui ressemblent à des phrases Tagada par exemple, qui sont assez grosses, voilà, c'est quand on en prend beaucoup, moi il m'est arrivé de pendant pratiquement 5 ans de prendre 46 gélules par jour. Ça, c'est une gestion, ça a une incidence sur la santé et c'est quand même assez compliqué à gérer. Maintenant, j'ai la chance que mon virus se stabilise et d'être un traitement qui est environ de... Là, je suis à 12-14 comprimés par jour.
Je pense qu'on peut en mourir, mais je pense que si l'on est traité assez tôt, on peut très bien vivre avec le sida.
Par contre, ok, on est soigné pour le VIH, mais les traitements et le VIH enclenchent d'autres pathologies. Pour être un peu plus clair, c'est-à-dire que là, j'ai donc 46 ans, 47 ans, et j'ai des pathologies donc qui ont été découvertes, qui arrivent en fin de compte normalement beaucoup plus tard dans la vie, qui arrivent vers les 60, 70 ans. Donc c'est des problèmes par exemple de neuropathie, des problèmes de blocage de nerfs, c'est une fonte un peu plus importante des muscles. Et puis, tout ce qui est lié, en fin de compte, à l'appareil cardiaque, qui entraîne un traitement complémentaire et une prise de traitement régulier avec des contrôles complémentaires.
Bah, j'imagine que, par exemple, je n'irai pas emprunter la brosse à dents de mon copain qui est séropositif. Je n'irai pas lui emprunter son rasoir. Je ne sais pas s'il se coupe, je ne serais peut-être pas très rassurée d'être à côté. Des choses comme ça, mais je pense que partager son assiette, boire dans son verre, j'en serais totalement capable à partir du moment où on sait que la maladie ne s'attrape pas par la salive. Après, je pense que c'est prendre quelques mesures d'hygiène en plus. Je pense pas que ça doit être atroce de vivre avec un séropositif, loin de là.
Parler de la séropositivité quand on rencontre quelqu'un, c'est dur. C'est dur parce que le dire au début, alors que peut-être ce sera, il y aura qu'une nuit, ça ne marchera pas, ou qu'un jour. Donc c'est pas le bon truc parce qu'après c'est le crier sur tous les toits, la personne peut le répéter, tout ça. Et le dire, quand c'est commencé, que c'est bien intense, et là peut-être que la personne va avoir peur et elle va nous reprocher de ne pas l'avoir dit avant parce qu'elle s'attachait ou des choses comme ça, c'est quelque chose de très difficile. Moi, l'ami que j'ai actuellement, je l'ai rencontré par internet. Je lui ai pas dit au départ, je lui ai dit quelques jours après quand on s'est revus. Je suis conservé quelques fois après, là je lui ai dit, il m'a dit que lui aussi, donc c'était parfait, ça simplifiait les choses. Donc voilà. J'étais soulagé parce que je me disais, là, quelqu'un avec qui ça marche, c'est bien, j'espérais un peu, que je me disais, est-ce qu'encore ça va être un problème ou pas, et j'étais soulagé de... Quand il m'a dit qu'il l'était, car du coup, je n'allais pas stresser. Voilà. J'ai vécu en couple sérodiscordant, donc avec une personne séronégative. Et c'est moi qui ai du mal dans la relation. C'est moi qui avais peur, c'est moi qui angoissais. Peur de contaminer mon partenaire, parce que on se protégeait, bien sûr, mais tous les 3 mois, il allait faire des tests, et c'est moi qui paniquais. Il y a même une fois où il y a eu un problème dans la chaleur, on n'a pas mis de préservatif, et au bout d'un moment, donc, on a dit on arrête, et il y a eu du sang. On a vu du sang, donc du sang, muqueuse, c'est un facteur à risque important. Donc il était tard le soir et je dis il faut aller à l'hôpital pour le traitement d'urgence, consulter. Et lui il disait j'irai demain, et puis demain il allait travailler, donc il allait y aller après le travail. Et plus on prend tôt, plus on commence tôt, plus il y a de chance, s'il y a eu contamination, justement de l'arrêter ou... Voilà, donc c'est moi qui ai insisté, qui l'ai bousculé, et on est parti là-bas, alors que lui, ça l'inquiétait pas, quoi. Et la relation, au bout de 2 ans, a cassé, parce que c'était trop de stress pour moi. Pour ma part, c'est plus simple avec une personne séropositive.
Dans le feu de l'action, je fais confiance à la personne avec qui je suis. Si, il y a parfois peut-être un éclair de lucidité à un moment où, je sais pas, sous la douche ou dans un moment de creux dans tout ce qui nous traverse l'esprit, on se dit tiens, c'est vrai que je le sais, c'est pas raisonnable et c'est pas prudent, il faudrait que j'aille me faire dépister, mais je le fais pas.
C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un ami qui est très au fait de cette pathologie, qui est séronégatif aussi, qui est séronégatif donc, et qui a qui m'aide aussi tous les jours à me battre justement contre cette, voilà, contre sa maladie, directement ou indirectement, par sa présence, par ses, voilà, parce que bon, les traitements sont difficiles, parce que quelquefois il y a des moments où on a un peu une baisse de régime, hein, quelquefois on est beaucoup plus fatigué que d'habitude, et puis on a peut-être un peu moins la force de se battre, et voilà, cet élément déclencheur, bah, c'est lui, voilà, par sa présence, par ses mots, par la communication. Et moi je pense que la communication est un élément hyper important dans la compréhension et dans la gestion de la maladie.
Alors la différence entre être séropositif et avoir le sida, je n'en ai à vrai dire aucune idée. Je pense que être séropositif, c'est avoir le virus en soi, mais pas forcément... Oh non, j'en sais rien en fait.
C'était Le sang des autres, un documentaire de Charlie Van de Kerckhove. Merci infiniment à Jérôme et à Joël Vermont. Merci à Pascal Doumange et Christophe Deleu, ainsi qu'à Lise, Romain et Irène. Merci enfin au SP Radio de la promo 2011 du QH pour leurs conseils et à mes amis pour leur soutien.